100% d'Europe, Laurent Berthaud.
Bonjour à tous et à toutes. Si vous êtes passé par le cœur de Londres en voiture au cours de ces vacances, vous avez dû vous acquitter d'un, voire de deux péages. Après avoir instauré un péage urbain pour les véhicules, Londres applique depuis octobre la T-Charge, une taxe sur les véhicules les plus polluants, ceux d'avant 2006. Une étape transitoire avant l'instauration d'une zone à circulation encore plus restreinte. À Londres, Marie Billon a d'abord recueilli les témoignages d'automobilistes qui, pour certains, doivent débourser près de 25 euros pour circuler au cœur de la capitale.
Sur Druid Street, dans le sud-est de Londres, les conducteurs doivent choisir entre un coup de volant gratuit ou payant. S'ils tournent à gauche, ils n'ont rien à débourser. S'ils choisissent d'aller vers le centre et le pont de Tower Bridge, ils devront s'acquitter de 13 euros de péage urbain au minimum. Marc conduit une voiture immatriculée avant 2006, ce qui signifie qu'il doit aussi payer la T-Charge.
Je travaille dans le centre, le West End, 5 jours par semaine. Je suis payé 120 livres la journée et chaque jour, je dois débourser 11,50 livres de péage urbain, 10 livres pour déjeuner et maintenant encore 10 livres pour la pollution. C'est sûr, c'est dur pour moi, mais il faut ce qu'il faut. Je suis prêt à apporter ma contribution au combat contre la pollution.
Pour l'instant, la congestion charge, comme on l'appelle ici, le péage urbain, ne couvre que le centre de Londres et n'est payant qu'entre 7h et 18h. Alors certains automobilistes, comme Suzanne, en profitent.
Ma mère habite à 100 miles d'ici, donc je suis parfois obligée de traverser le centre de Londres. Dans ce cas-là, je pars tôt à 5 ou 6 heures du matin pour éviter le péage urbain. C'est vrai que c'est important de réduire les embouteillages et la pollution, mais c'est un défi pour le budget de certains, car tout le monde n'a pas les moyens de s'acheter une nouvelle voiture.
C'est effectivement un des buts de la mairie en introduisant cette nouvelle T-Charge, pousser les Londoniens à acheter des véhicules moins polluants, si bien sûr ils ne veulent pas ou ne peuvent pas abandonner la voiture pour de bon. À une centaine de mètres de Druid Street, dans la zone payante, se trouve justement l'hôtel de ville. C'est dans ce bâtiment rond, tout en verre, au bord de la Tamise, que Sadiq Khan, le maire de Londres, a présenté et défendu son projet.
Plus de 9000 Londoniens meurent prématurément chaque année à cause de la pollution de l'air. Les poumons des enfants ne se développent pas correctement, ce qui engendre des maladies chez beaucoup d'entre eux. Et la T-Charge est la première étape vitale en vue de l'introduction de la zone à ultra basse émission. Elle contribuera à réduire de 50% les émissions d'oxyde d'azote dans le centre de Londres.
Cette zone à ultra basse émission, souvent appelée par son acronyme ULEZ, entrera en vigueur le 8 avril 2019. Elle concernera là encore uniquement la zone de péage urbain. En revanche, elle sera applicable 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Certains deux-roues seront pour la première fois soumis à cette taxe, comme les véhicules anciens. Martin, la vingtaine, marche tranquillement vers le métro qu'il prend tous les jours à deux stations de la mairie de Londres. Cela fait 5 ans qu'il vit ici, mais il trouve que la capitale est de plus en plus élitiste.
Londres devient une ville pour les riches, pour ceux qui ont de hauts salaires. 22 livres par jour, ce n'est rien pour eux. Ce sont les gens les moins aisés qui ne pourront plus aller dans le centre.
Dans le centre de Londres, sur l'artère Marylebone Road, le trafic est toujours dense. Dans chaque sens, il y a deux, parfois trois voies pour les véhicules. La route est considérée par les experts comme l'équivalent d'un canari qui prévenait les mineurs de la présence de monoxyde de carbone. Quand le niveau de pollution est trop haut, c'est sur Marylebone Road que ce sera ressenti en premier. Aucune artère n'est autant surveillée que celle-ci, assure le quotidien The Guardian. Et pourtant, il y a toujours du monde sur les trottoirs. Les touristes sortent de la station de métro Baker Street pour se rendre soit au musée de Sherlock Holmes, soit au musée des cires, Madame Tussaud. Et pile en face se trouve l'un des campus de l'université de Westminster. Des dizaines d'étudiants traînent à toute heure sur les marches ou sur les trottoirs. Certains pour fumer, d'autres juste pour discuter. Et pendant ce temps-là, ils inhalent cette pollution.
I'm Rachel Aldred, I'm a reader in transport at the University of Westminster.
C'est ici que nous rencontrons Rachel Aldred, professeure spécialisée dans les transports. Dans cette faculté, elle se déplace tout le temps en vélo. Pour elle, la T-Charge, c'est bien, mais peut mieux faire.
La T-Charge n'affecte qu'un petit nombre de véhicules, environ 10 000 des voitures les plus polluantes datant d'avant 2006, surtout des diesels et quelques voitures à essence très polluantes. Cette mesure aura quelques effets, mais il faut voir plus loin car la taxe ne s'applique qu'au centre de Londres et c'est en dehors que les trajets en véhicule sont les plus nombreux. Il faut protéger les poumons des gens qui vivent au-delà de cette zone aussi.
Rachel Aldred estime que l'argument selon lequel les pauvres sont les plus durement touchés par la T-Charge ne tient pas. En majorité, ce sont les plus aisés qui circulent en voiture dans le centre de Londres, dit-elle. Certains comme Marc, qui travaille dans le centre, pourront rencontrer des difficultés, mais ils ne seraient qu'une minorité. Cela dit, demander aux automobilistes de mettre la main à la poche n'est pas forcément la meilleure solution, dit-elle.
Nous devrions aussi penser à restreindre l'accès des véhicules à certains endroits de Londres, parce que quand on y pense, si la pollution de l'air est si dangereuse pour la santé, est-ce vraiment juste de permettre aux gens d'acheter le droit de polluer ? Nous pourrions envisager des zones résidentielles interdites à la circulation, limiter les lieux dans lesquels on peut se rendre en voiture.
Mais avant que la mairie puisse envisager cela, elle va devoir régler un autre problème, celui des transports en commun. Le métro est déjà à la limite de ses capacités. Aux heures de pointe, les bus aussi sont pleins à craquer. La mairie continue à construire des pistes cyclables, mais Londres est si vaste qu'on ne peut pas pédaler partout. La solution, dit Rachel, se trouve dans le vélo électrique en libre service.
Magic System, l'esclavage moderne des footballeurs africains, c'est le titre de l'ouvrage que viennent de signer Barthélémy Gaillard et Christophe Glaise. Ces journalistes ont enquêté pendant plusieurs mois sur l'envers du décor du ballon rond en Afrique, une enquête qui révèle l'existence d'une traite particulièrement opaque vers les clubs européens où, je cite, « le jeune footballeur africain ne vaut guère plus qu'un simple kilo de coton, mais qui représente un puits de pétrole pour sa famille ». C'est ce qu'a d'abord dit Barthélémy Gaillard à Catherine Roland.
La formule est un peu forte, mais elle est avérée et vérifiée, parce qu'il est vrai que pour les familles et pour les enfants en premier lieu, c'est vraiment le meilleur moyen d'avoir accès à une ascension sociale très rapide, le football. Et c'est pour ça que à la fois les jeunes, mais aussi les parents, misent énormément là-dessus et sont prêts à dépenser les économies d'une vie, voire à hypothéquer une maison, pour financer un potentiel départ en Europe, qui est d'ailleurs parfois complètement mensonger et qui est le fait d'arnaqueurs qu'on dénonce dans ce livre.
Et oui, justement, Christophe Glaise, ce qui frappe quand on lit votre enquête, c'est le cynisme de tous ces acteurs. Certains témoignent d'ailleurs avec une très grande franchise. Ils mentent, ils escroquent, tous des garçons pauvres à qui on fait miroiter des espoirs de réussite. On pense notamment à cet agent espagnol.
Il s'appelle José Jiménez, il est assez proche de l'Atlético Madrid. Et en fait, comment il se nourrit en chair fraîche ? Et j'utilise le terme à bon escient, c'est il a des rabatteurs dans plusieurs pays africains. Et nous, quand on était à Bamako, au Mali, on a eu la chance de tomber sur trois jeunes victimes, Mohamed, Moussa et Massiré, à qui on passe le bonjour. Peu importe le pays dans lequel on va, c'est toujours la même histoire. C'est trois jeunes qui étaient en train de jouer au foot. Arrive un agent qui présente bien, qui leur dit « Ah oui, je peux vous avoir un test à l'Atlético, à Manchester, au PSG, à Amiens ou à Reims. Il faut juste me donner 3 000 euros pour avoir le test. » Alors bien sûr, ils donnent sans compter, parce que pour eux, ils sont totalement happés par l'Eldorado européen.
Barthélémy Gaillard, effectivement, ce trafic, c'est toujours dans la même direction. C'est toujours vers les clubs européens. Alors ça passe quelquefois malgré tout par le Maghreb, c'est la même route que les migrants. Et là-bas, les conditions de détention, on peut parler vraiment de détention, quelquefois sont épouvantables.
Dans les pays du Maghreb, se sont développées pas mal de structures qui offrent, soi-disant, une formation de très grande qualité pour les jeunes joueurs qui, du coup, croient en leur chance et s'inscrivent dans ces formations. Et en fait, de clubs, de centres de formation de haut niveau, d'installations de qualité, ils trouvent quoi ? Ils trouvent simplement 3 ballons crevés et 2 pauvres terrains de foot. Qui plus est, le directeur de ce centre de formation, ensuite, a ses jeunes joueurs sous sa coupe réglée, à savoir, il leur prend leurs papiers. Donc, les gamins se retrouvent dans une situation d'énorme détresse administrative et du coup, se retrouvent dans des formes d'esclavage moderne. On peut vraiment utiliser
le
terme.
Oui, parce qu'ils sont logés à 30 dans un petit studio. Ils ont, voilà, pas d'argent, pas de carte bleue. Si vous voulez, leur seul échappatoire, c'est de continuer à jouer au foot et de ne pas se plaindre face à des gars qui non seulement ont empoché l'argent, et quand on parle de 5 000 euros, 3 000 euros, ça a l'air de rien comme ça, mais pour une famille africaine, c'est les économies de toute une vie. C'est de la publicité mensongère à son plus bas niveau. Et ils regardent lequel va percer et ensuite lequel va être opéré pour pouvoir faire des millions, mais on parle jamais des 29 autres qui restent comme ça et qui sont vraiment dans une situation de dépendance totale, clandestin, bloqué, et qui ne peuvent pas retourner au pays par honte de l'échec. Et c'est là où, en bout de course, ils sont complètement désorientés, perdus, et ils finissent généralement par être enrôlés par des réseaux de prostitution ou des réseaux de criminalité.
Et c'est ce qui permet par ailleurs au mythe de l'Eldorado footballistique de perdurer, comme disait Christophe, parce qu'effectivement, ceux qui sont en situation d'échec refusent de faire cet aveu. Donc si vous voulez, c'est très compliqué d'avoir cette information comme quoi 99 personnes sur 100 échouent dans les pays dont les gens sont originaires, parce que cette information ne parvient pas, tout simplement.
Alors sur le terrain, hein, pourtant, il y a des ONG qui sont là au travail, qui tentent de mettre en garde toutes ces jeunes pousses, et pourtant, ces jeunes garçons, ils rentrent dans le système, ils en viennent à tricher sur leur âge. C'est même un sujet de plaisanterie dans les clubs européens.
C'est un sujet de plaisanterie, effectivement, parce que parfois les joueurs africains ont un physique de quadragénaire et sur leur licence...
Oui, on pense à Joseph-Marie Minala, ce joueur camerounais en Italie. Oui.
Exactement.
À qui on passe le bonjour aussi.
Également. Et, mais au-delà de ça, donc pour nous, ça peut sembler quelque part presque folklorique, mais ce qu'on a compris, en tout cas nous, en nous rendant en Afrique de l'Ouest, c'est que c'était pas simplement des cas isolés, mais que c'était une logique systémique qui était à l'œuvre au sein de tous les jeunes joueurs africains, parce que si vous voulez, c'est le moyen de se rendre le plus séduisant possible auprès des recruteurs d'autres clubs. Donc les clubs européens vont chercher les joueurs le plus jeunes possible pour ensuite pouvoir les former, justement.
Aujourd'hui, demander à un jeune footballeur africain de ne pas tricher sur son âge, c'est lui briser ses chances de carrière.
Qui est finalement responsable de tout ce trafic ubuesque, hein ? Ce sont les agents, les recruteurs, les clubs européens, Barthélémy Gaillard ?
Bah écoutez, je pense que les responsabilités sont évidemment partagées, mais en tout cas ceux qui en tirent le plus gros bénéfice, donc ceux qui sont je pense les plus responsables, sont effectivement les clubs européens. Parce que si vous voulez, c'est eux qui profitent de la logique de base, à savoir recruter en grande masse des joueurs à très bas coût pour ensuite le long d'une longue chaîne de valeur ajoutée permettre de les revendre à un coût énorme. On connaît les prix pratiqués sur les marchés des transferts actuels. Ensuite, ils se servent sur toute la chaîne de valeur ajoutée, et justement il y a des rois bien huilé que sont les intermédiaires. Si vous voulez, pour le mot de la fin, c'est qu'on est ni plus ni moins face au même cas similaire à ceux de migrants qui ne sont pas partis pour le football, tout simplement.
Barthélémy Gaillard et Christophe Glaise, auteurs de Magic System, l'esclavage moderne des footballeurs africains aux éditions Marabout. Lieu incontournable de la nuit zagréboise en Croatie, le club Mojvara va bientôt fêter ses 20 ans. Malgré les pressions des puissants milieux conservateurs du pays, la salle a toujours maintenu son cap, underground et anticonformiste. Une résistance festive dont l'histoire est devenue un livre, Simon Rico.
Mojvara, le marais en français, c'est une institution dans la capitale croate. Depuis la fin des années 90, toute la jeunesse alternative se retrouve dans ce lieu pas comme les autres, logé dans une ancienne usine près de la rivière Save, qui a vu jouer les Buzzcocks, Tortoise, les Deftones et à peu près tout ce que les Balkans comptent comme bon groupe de rock. C'est aussi là que les premières mises en scène d'Oliver Frljić, l'enfant terrible du théâtre croate, ont été montrées et que des projections de la nouvelle génération du cinéma serbe ont pu avoir lieu malgré les critiques des cercles nationalistes. Aujourd'hui encore, la salle reste l'un des moteurs de la scène indépendante régionale. Pourtant, à son ouverture, bien peu croyaient à la pérennité de l'aventure. La guerre, qui a ravagé la Croatie pendant près de 4 ans, venait tout juste de se terminer et le pays était toujours dirigé par le très nationaliste président Tudjman. Après sa mort en 2000, la Croatie a commencé à sortir des années de plomb, mais les attaques contre Mojvara n'ont pas cessé. Fin 2001, un groupe de hooligans d'extrême droite a ainsi fait irruption dans le club, armé de battes de baseball, pour tabasser le public venu assister à la projection d'un film sur la dernière équipe de foot yougoslave. Désormais, c'est contre la mairie, qui refuse de soutenir ses projets culturels, que Mojvara doit se battre. Alors pour survivre, l'équipe et les salaires sont réduits au minimum vital. Heureusement, le public continue de venir toujours aussi nombreux, même si bien des clients n'étaient pas nés quand Mojvara a ouvert. Fin mars, un pavé de 500 pages a paru pour documenter ce pan méconnu de l'histoire récente de la Croatie. Cet ouvrage collectif vient rappeler l'importance de Mojvara dans le réveil d'une Zagreb longtemps assoupie. Espérons que les pouvoirs publics sauront y prêter l'oreille.
Day.
Bonjour Vincent Thébal.
Bonjour Laurent, bonjour à tous.
Direction aujourd'hui la petite ville de Marfa au Texas.
Et oui, c'est là que se tient depuis 2014 le festival pluridisciplinaire Marfa Myth, sorte d'oasis culturelle au milieu d'un décor désertique. Et chaque année, ce festival propose à des artistes de collaborer lors d'une semaine de résidence. L'an passé, cette belle opportunité était offerte à deux groupes, les Américains Woods et les Suédois Dungen, des musiciens qui se connaissaient et s'appréciaient depuis un bon moment, mais n'avaient jamais véritablement travaillé ensemble. C'est désormais chose faite, et le fruit de cette collaboration, c'est un album intitulé Myth 3, où sont déclinées toutes les couleurs d'un rock psychédélique chanté tantôt en anglais, tantôt en suédois.
Dungen and Woods, la proposition musicale de Vincent Thébal pour refermer cette dernière rediffusion de l'été. Lundi, toute l'équipe vous retrouve pour une nouvelle saison d'Accent d'Europe.